l'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
factualité.
C'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi à 15h
et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Marmite FM 88.4. Bienvenue à Factualité, l'émission des étudiants de l'UVSQ. Aujourd'hui au studio, pour vous servir, il y a Toinou, Caro, Marvin, Mathilde, Aïcha, Julien et Zino. Hello la team Factu.
Hello.
Salut.
Vous allez bien?
Oui.
Tranquillou.
Tranquillou, ok. Eh bien, au programme de cette émission, on commencera avec les actus de l'UVSQ. Ensuite, Antoine reviendra sur la Journée internationale de la femme. Ensuite, Aïcha nous parlera de Vince mort pour une corne. Puis, Mathilde traitera d'une heure pour la planète. Ensuite, Caro nous donnera ses news. Marvin, quant à lui, nous présentera la Nintendo Switch. Et enfin, on terminera avec Zino et Julien et leur retour sur le match retour FC Barcelone-PSG. C'est parti! Alors, que se passe-t-il à l'UVSQ? Eh bien, j'ai deux informations pour vous. Est-ce que parmi vous, parmi vos connaissances, il y a des gens qui ont des bourses de logement, des bourses pour l'université? Oui, Zino?
Oui, moi, j'ai une bourse.
Oui, on connaît des gens qui ont des bourses.
Eh bien, vous avez jusqu'au 31 mai 2017 pour faire votre demande de bourse et ou de logement au CROUS. Est-ce que vous savez comment ça se passe, les demandes de bourse, de logement?
Il me semble qu'on doit faire un dossier.
Ouais.
Et on le donne à l'administration et notre dossier est validé ou pas, quoi.
Mais tu mets quoi dans le dossier?
Tu mets les
revenus de tes parents, ouais. C'est les impôts, les revenus fiscaux de tes parents, un truc comme ça,
ouais.
Voilà.
C'est ça, c'est ça. Donc, ça se fait en ligne. Le site internet s'appelle messervices.étudiants.gouv.fr. Et donc, vous cliquez sur l'onglet « Demande DSE »,« Demande de dossier social étudiant ». Et comme vous l'avez dit, il faut préparer l'avis fiscal 2016 sur les revenus 2015 de la famille. Vous y déclarez ensuite vos vœux d'études dans les académies de votre choix. Au total, vous pouvez effectuer 4 vœux dans des académies différentes. Et si vous voulez un logement étudiant, vous y mettez vos préférences de logement étudiant. Et donc tout cela sera traité par les CROUS des diverses académies que vous sollicitez.
Donc pas seulement à Paris-Saclay.
Paris-Saclay dépend de l'académie de Versailles.
Ouais.
Ouais, donc non, si vous voulez faire vos études dans une université parisienne sur Paris, ce sera à l'académie de Paris.
D'accord.
Voilà. Et seconde info, saviez-vous qu'il y aura bientôt des élections étudiantes à l'université Paris-Saclay?
Ah ça oui, on est tous au courant.
Ah bon? Non, moi j'ai pas reçu de prospectus, donc
moi non plus,
ça m'étonne.
Okay. Ah, Caro, ouais, t'es au courant, donc...
Oui, il y a des sièges, ils vont les différents partis, je sais pas comment on appelle ça, de la fac, typiquement l'UNEF, l'UNI et tout ça, vont pouvoir récupérer des sièges. Voilà.
Pour le conseil d'administration, c'est ça?
C'est ça.
Ah bah si, alors.
Ouais. Ok, comme vous étiez au courant.
Ouais.
Non, c'est pas,
tous les ans.
C'est tous les deux ans, je crois.
Oui, tous les ans.
Oui, donc étudiant de l'université Paris-Saclay, vous êtes appelé à élire vos représentants au conseil d'administration et au conseil académique du 28 au 30 mars 2017. Voter est très important et facile. Pas besoin de vous déplacer, le vote se fait en ligne.
Ah, c'est nouveau ça.
Pourquoi voter ? Le conseil d'administration et le conseil académique sont en charge de définir la politique et la stratégie de l'université Paris-Saclay, c'est-à-dire les formations, la vie étudiante, la vie du campus... l'international, le fonctionnement, le budget. Et donc, vous, en tant qu'étudiant, votre voix compte non seulement pour l'amélioration de votre quotidien et de vos conditions d'études, mais aussi pour l'avenir de l'université Paris-Saclay. Et donc, avant de voter, il faut que vous vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Et depuis le 28 février, ces listes sont affichées dans les divers établissements qui composent l'université Paris-Saclay. Donc pour l'UVSQ, je pense que vous avez dû les voir, ces listes, elles sont affichées sur les panneaux afférents aux élections au sein de Paris-Saclay.
À D'Alembert ?
Oui, sûrement à D'Alembert, oui. Et donc, comment voter ? Eh bien, je vous l'ai dit, les deux élections se dérouleront du 28 au 30 mars 2017. Le vote est électronique, accessible par Internet depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Et aussi via les ordinateurs mis à disposition sur vos lieux de formation. Vos codes de vote, communs aux deux élections, vous seront adressés par email par la société Gédicom sur votre boîte mail fournie par votre établissement d'inscription. Donc il faut que vous, vous vérifiez vos mails at université UVSQ, enfin je ne sais plus comment c'est, mais donc vous vérifiez votre boîte mail de l'université de Versailles 51 Yvelines, vous récupérez vos codes et vous procédez au vote du 28 au 30 mars. Donc c'est un appel à tous les étudiants de l'université de Versailles 51 Yvelines, participez à ce vote car il est déterminant pour la suite, l'avenir de l'UVSQ, mais aussi de Paris-Saclay. Donc, au vote. Voilà, c'est tout pour ma chronique Actu de l'UVSQ. Sans transition, Antoine, la parole est à toi.
Alors moi, je vais vous parler de la Journée internationale pour la revendication de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc comme vous le savez, c'est tous les ans, le 8 mars. Donc c'était il y a quelques jours, et en fait, c'est dans cette journée, en fait... On met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Il faut savoir aussi que c'est à partir de 1977 que les Nations Unies officialisent la journée. Donc pour l'occasion, évidemment, il y a de nombreuses vidéos qui sont mises à jour, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet, pour montrer donc, cette inégalité homme-femme en chiffres. Donc c'est un vrai problème international. Et donc moi, je me suis basé sur une vidéo que ma camarade Mathilde m'a montrée. Ça s'appelle « Naître fille, c'est devoir surmonter beaucoup d'obstacles ». Donc on y apprend par exemple qu'en Afghanistan, 90% des femmes ne savent ni lire ni écrire. Donc ça réduit énormément leur perspective d'avenir. On y apprend également que par exemple dans le monde, actuellement 63 millions de filles ne reçoivent pas d'éducation. Alors il faut savoir que dans le monde, il y a 700 millions de filles qui ont été ou sont mariées de force à des hommes souvent plus âgés, comme à travers par exemple les mariages arrangés. Il y a également 22 millions de femmes chaque année dans le monde qui ont recours à ce qu'on appelle les avortements clandestins. Et cela nuit évidemment à la santé et à la vie de ces femmes-là. D'ailleurs, ces avortements sont interdits dans de nombreux pays et peuvent même amener à la prison, comme au Sénégal par exemple. Donc, il y a également le problème de la violence qui est important. Rien qu'en France, il faut savoir qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Donc c'est énorme, évidemment. Il y a également aussi de nombreuses inégalités sociales. Comme par exemple, savez-vous qu'en France... une femme gagne en moyenne 19,2% de moins qu'un homme pour le même travail. Et il y a également des études qui montrent que 80% des femmes sont confrontées en fait au sexisme au travail. Et donc c'est un problème international et il y a beaucoup de luttes pour ça. Et du coup j'aimerais savoir autour de la table, que pensez-vous de cette journée? Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ou pas assez, ou il y a des choses à changer?
Marvin?
Oui, moi je trouve que cette journée est très importante, mais je pense aussi qu'elle n'est pas suffisante. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait en mettre plusieurs, mais je pense que sur une période en fait, ça devrait être plutôt périodique en fait. On devrait reconnaître ce genre pas ce genre de droit, ça serait mal m'exprimer, mais les droits de la femme devraient être reconnus sur plusieurs périodes pour qu'on en parle plus longuement et qu'on s'attache plus au problème. Une journée, c'est 24 heures et on passe au moins 6 heures à dormir. Alors c'est peut-être bête comme ça, mais du coup on perd du temps en fait. Selon moi, on n'en parle pas assez.
Okay. Aïcha,
actuellement, moi je pense que la journée convient, pas parce que c'est suffisant, mais parce que je pense que notre génération à nous commence à faire bouger les choses et on voit qu'il y a de plus en plus de mobilisation. On voit qu'il y a de plus en plus de démonstrations justement de ce que subissent les femmes tous les jours. La plupart du temps, on passe pour des rabat-joie ou on n'aime pas se faire draguer dans la rue. Franchement, on n'est pas drôle. Mais les hommes commencent à se mettre à notre place. Et on le voit à travers les réseaux sociaux ou à travers simplement dans des documentaires ou dans des magazines. Et après, c'est mon ressenti. Hein. Mais je trouve que maintenant, les choses commencent à changer et ça commence à évoluer. Et je pense que c'est avec notre génération qu'on pourra faire changer les choses à ce niveau-là. Voilà.
Julien, oui.
Aïcha a en partie répondu à ma question, mais en fait... c'est clairement pas suffisant parce qu'au final, elle sert à quoi concrètement cette journée? À part réfléchir le matin quand on se réveille, on se rend compte que c'est la journée de la femme, on se dit ah bah ouais, c'est vrai, puis après c'est fini quoi.
Et encore, il y avait match ce soir.
Donc, et il y avait match ce soir-là.
Enfin, personnellement, durant toute cette journée, moi j'ai vu que les médias ont bien relayé l'information, qu'il y a eu beaucoup d'interviews de femmes en fait qui faisaient des débats sur notamment l'inégalité entre les salaires hommes-femmes.
Ouais, mais ça reste des débats. C'est juste, on va relayer l'information, il n'y a aucun changement. Donc si le jour de la journée de la femme, il y a quelque chose qui est fait au niveau, je sais pas, étatique ou j'en sais rien, peut-être ce serait un vrai truc.
Mais déjà, au niveau politique, il faudrait qu'il y ait du changement. Parce que quand tu vois les réactions des hommes au Parlement, quand une femme politique est habillée en robe, elle se prend des réflexions
on va pas les dire maintenant parce que ça va nous énerver, mais c'est pas joli joli à entendre venant d'hommes politiques qui nous représentent nous. C'est franchement ça donne pas une bonne image de la France et une bonne image de la politique française.
Ça, c'est sûr. Moi,
Zino. Ouais, moi, je te rejoins, Julien, dans le sens où c'est vrai que j'ai l'impression que rien n'est fait concrètement pour les femmes. J'ai l'impression que cette journée est plus un événement médiatique, c'est-à-dire tout le monde en parle. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est l'occasion de faire passer telle personne à la télé, telle personne. Mais concrètement, que se passe-t-il pour les femmes? Est-ce qu'il y a du changement ou pas avec cette journée?
Bah, on a des réductions dans les boutiques, c'est tout ce qu'on a. Mais en concret, il n'y a rien. En concret, il n'y a rien, en fait, c'est tout. Oui, oui, on a des réductions. La journée de la femme, on a des réductions sur les strings et tout ça.
Mais.
C'est vrai.
Mais non, mais c'est vrai.
Une culotte achetée, la deuxième est offerte.
On rattache la femme à des choses futiles, en fait.
Merci le truc, quoi.
C'est parce que la femme est rattachée à une image futile. On a dépassé le cliché de la femme qui doit rester à la cuisine. Maintenant, on la tolère dans les bureaux. On la tolère à des postes qui sont haut placés. Et de temps en temps, on lui dit que c'est pas sa place parce qu'elle prend la place d'un homme. Enfin, concrètement, elle peut pas faire le même travail. Quand on voit le député ukrainien polonais de la semaine dernière qui a dit que concrètement les femmes ne pouvaient pas faire le même travail qu'un homme parce qu'elles étaient plus stupides. Moi je me dis vraiment ça avec notre, je pense que c'est vraiment avec notre société à nous. Quand on écoute juste le discours des garçons autour de la table, je pense que c'est notre génération à nous qui va nous aider à faire avancer les choses. Donc messieurs et mesdames les politiciens, écoutez-nous s'il vous plaît, faites quelque chose.
Merci Antoine pour ta chronique et merci mes animateurs pour vos interventions. Sans transition, Aïcha, la parole est à toi.
Merci. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Vince, le rhinocéros de Thoiry, qui est mort dans la nuit de lundi à mardi. Ça s'est passé dans les Yvelines, donc dans le zoo parc de Thoiry. Il est mort attaqué par des braconniers qui se sont introduits dans la loge des rhinos. Donc ils étaient trois à la base. Les hommes se sont introduits pour lui tronçonner la corne. Donc pour ça, ils lui ont mis 4 balles dans la tête et non 3. Je tiens ces informations de sources sûres. Ils lui ont tronçonné et non scié, ce qu'on a pu entendre dans les médias. Ils lui ont pris la corne principale, donc la plus grande des deux. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la corne d'un rhinocéros aurait des effets aphrodisiaques sur l'homme. Mais il faut savoir qu'une corne de rhinocéros, ce n'est autre que de la kératine. Donc c'est soit un amalgame de cheveux qui ont durci, soit de l'ongle. Donc, je voudrais juste comprendre où est l'aphrodisiaque, parce que quand on ronge nos ongles, on n'est pas plus fifou que si on n'avait rien fait. Donc, selon d'autres sources, comme je vous le disais, que celles qui sont parues cette semaine, qui sont proches des autorités, le rhinocéros n'aurait pas pris 3 mais 4 balles, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la tête. Donc, pour être sûr qu'il soit mort. Et il faut savoir également que le système de sécurité, c'est ça qui a été mis en cause par les autorités et qui n'a pas été fortement relayé par les informations. N'est pas opérationnel. Donc lors de l'assassinat, les caméras de sécurité ne fonctionnaient pas. Ils ont juste grimpé petite barrière, ils sont passés, ils sont rentrés avec les trois rhinocéros dans le lodge, séparés chacun, il n'y en avait qu'un par box. Et ils ont commis cet acte affreux. Donc on peut parler d'assassinat aujourd'hui. Et c'est pas la première fois que ce genre d'effraction, donc je parle d'effraction et non de meurtre d'animaux, arrive dans les zoos. On parle également du zoo de Beauval il y a quelques années, en 2013, avec le vol de 7 tamarins lions, la tête dorée. Vous pourrez aller voir sur internet ce que c'est tout petit. Et 10 ouistitis argentés, donc ce sont des espèces protégées, menacées, qui valent des millions d'euros. Pas des milliers, mais des millions d'euros. Et ce n'est pas, ça rentre pas dans la même catégorie de ce qui s'est passé et qui nous a touché fortement, nous, en France, mardi matin, en découvrant le corps de Vince. Le zoo de Thoiry a été également victime, il y a plus de 20 ans, de la fuite de wallabies et de kangourous du parc, ce qui peut faire sourire aujourd'hui, parce qu'on peut encore en croiser dans la forêt d'Ambouillé, en aperçoir. Donc si vous envoyez, si vous allez en voir dans la forêt d'Ambouillé, n'ayez pas peur, n'appelez pas la police ni la gendarmerie, c'est normal. Vous avez même des petits panneaux, Caroline me le disait, il y a des panneaux sur certaines routes qui indiquent la présence de kangourous.
Il y a un panneau.
Ouais, il y a un panneau qui indique la présence de kangourous, donc ne soyez pas alarmés, vous n'êtes pas passé en Australie, mais vous êtes toujours en France. Enfin bref, moi ça m'a beaucoup atteint parce que j'aime les animaux comme tout le monde, et puis je trouve ça triste de faire ça comme ça, en plus dans un zoo. Donc du coup en fait ça soulève la question d'une potentielle législation à mettre en place dans les zoos qui regroupent les espèces donc animales précieuses et protégées, pour imposer la mise en place d'un vrai système de sécurité, parce que ce sont des espèces, comme j'ai dit, qui sont protégées pour la plupart, et parfois ce sont les derniers représentants de leur espèce qui sont dans les eaux. Donc il faut les protéger, et il faut faire quelque chose pour les aider à ce niveau-là.
Mais il n'y a pas de caméra.
Il n'y a pas de caméra, donc voilà, mettre instaurer vraiment une politique de sécurité à imposer à tous les zoos, à tous les zoos potentiels qui vont voir le jour en France aussi.
Mais en fait, c'était déjà en place, normalement, depuis
quelques
années.
Oui, mais il ne fonctionnait plus.
Non, mais je veux dire, normalement, en fait, il y a déjà une législation qui est en cours depuis 5 ou 6 ans, je crois. Mm. Parce qu'il y avait, en fait, les cornes de rhinocéros sont très en vue des braconniers. Depuis quelques années. Alors, je crois que ça fait 15 ans qu'on vole, qu'il y a des voleurs dans les musées qui volent donc des cornes qui ont été sculptées, en fait. Ouais. Et du coup, ça fait quelques années qu'il y a normalement une législation pour protéger les rhinocéros, même dans les zoos européens. Mmh. Donc là, apparemment, c'était pas...
Non, mais en fait, Thoiry, il faut savoir qu'en ce moment, je veux pas leur faire de mauvaise publicité, mais il y a un moment, il faut dire ce qui est, préfère mettre son argent dans son projet d'hôtellerie que dans la préservation des espèces, dans l'entretien du système de sécurité. Il faut savoir qu'actuellement, Thoiry n'a plus une aussi bonne presse qu'avant. Quand nous, on était petits, je sais pas si vous y êtes déjà allés, mais Thoiry, c'était un truc exceptionnel, enfin...
Ouais.
Il y avait un contact, il y avait un réel contact avec les animaux, les visiteurs étaient enchantés, et là, ça s'est mis de côté pour pouvoir agrandir le côté parc, donc le côté hôtellerie, pour faire comme tous les zoos, comme le zoo de la Flèche ou le zoo de Beauval, qui permet aux visiteurs de dormir avec les animaux, dans des cabanes à côté. Mais vraiment, enfin, s'il y a une législation, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été respectée. Et il y a également aussi, excuse-moi Caroline, il y a également aussi les scientifiques qui ont mis au point une poudre rose qui permet en fait de colorer la corne des rhinocéros, des éléphants à perpétuité. En fait, la corne continue de pousser, mais elle va pousser d'une couleur rose, donc elle sera invendable, et ça empêche justement les braconniers d'assassiner ces bêtes, quoi.
Oui. Ce que je comprends pas, et peut-être que je me suis trompée du coup dans la compréhension de l'histoire, c'est-à-dire que là à Thoiry, il y a des braconniers, ils ont réussi à rentrer, tuer le rhinocéros,
tronçonner, donc avec une tronçonneuse, hein, parce que tronçonner c'est avec une tronçonneuse,
tronçonner, se sauver avec la corne sans que rien ne soit vu.
Non.
Mais apparemment, ils ont été dérangés parce que...
Ils n'ont pas fini de couper la deuxième corne.
Ouais, voilà.
Ouais. Mmh. La deuxième est restée sur place. Donc, à mon avis, la sécurité a dû venir parce qu'ils ont dû entendre les deux autres rhinocéros s'agiter. Mmh. Enfin, faut savoir...
Ouais, mais non, parce qu'en fait, là, c'est pas la sécurité qui a découvert le cadavre.
Non, c'est les soigneurs.
Ouais, c'est les soigneurs.
C'est les soigneurs le lendemain matin. Mais peut-être qu'ils ont dû entendre quelque chose. C'est peut-être un animal qui a fait un bruit ou un rhino qui est en train de s'agiter de l'autre côté. Après, ça, on ne sait pas. Mais il faut savoir que les deux autres étaient là. Et à mon avis, le lendemain matin, déjà trouvé le cadavre, mais en plus les rhinos complètement affolés, apeurés, stressés, parce qu'un rhinocéros, ça a l'air d'être une grosse bête pleine de muscles et de férocité, mais c'est un animal pacifique. Si on ne l'approche pas, il ne bouge pas.
Oui, Marvin.
Est-ce que dans l'enquête, on a soupçonné des gens du zoo d'avoir
des... Non, j'ai eu la même idée que toi. Ouais. Je me suis dit, ça rapporte de l'argent, donc quitte à...
Oui, non, mais c'est surtout caméra désactivée, on découvre que le lendemain...
Après, si ça avait été les soigneurs ou quelqu'un du zoo, je pense que... Faut pas croire, mais ils sont attachés à leurs animaux.
Ouais,
ils les voient tous les jours. Donc, à mon avis, ils l'auraient endormi pour lui sectionner la corne. Ça repousse, c'est de la kératine, je l'ai dit, c'est pas un membre qu'on vous coupe.
Ouais.
Donc, à la limite... Je sais pas, endormez-le, quoi. Mais le tuer, je vois pas... Enfin bref, en plus, 4 balles dans la tête, c'est très violent. Mmh. Vince, c'était une des stars du zoo. À 5 ans, c'est très jeune, un rhino. C'est extrêmement jeune. Donc,
Il en reste plus beaucoup, en plus.
Non.
Parce que c'est un rhinocéros blanc du sud. Il en reste plus beaucoup.
Un rhinocéros blanc d'Afrique, ouais.
Merci Aïcha pour cette chronique. Moi, le simple fait d'entendre cette atteinte à une espèce animalière... protégée et adulée de tous, petits comme grands, me sidère. Je passe maintenant la parole à Mathilde. Mathilde, après les atteintes aux espèces animalières, tu vas nous parler d'atteintes à la planète, c'est ça ?
Ouais, mais ça va être un petit peu plus optimiste. Alors, moi, je vais vous parler du plus grand événement de lutte contre le changement climatique. Est-ce que certains parmi vous savent de quoi je vais parler ?
Non.
Non.
Bah, c'est le mouvement « Une heure pour la planète » de WWF, qui consiste à éteindre ses lumières le samedi 25 mars à 20h30. Donc « Une heure pour la planète », c'est un événement mondial qui permet de redonner du pouvoir aux citoyens. Les citoyens, en éteignant les lumières, peuvent faire bouger les choses. Et c'est un mouvement, du coup, qui a été mis en place en 2007. Et faut savoir qu'en 2016, Paris avait remporté le titre de capitale mondiale. Parce qu'en fait, chaque année, Une heure pour la planète récompense la ville qui représente un modèle en matière de lutte contre le changement climatique. Et je pense que Paris avait reçu ce prix parce que elle a organisé la COP 21. Donc ça devait sûrement être un modèle. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un événement mondial parce que en fait, beaucoup de monuments à travers le monde s'éteignent à 20h30. Enfin, je ne sais pas si c'est à 20h30 ou c'est en fonction du décalage horaire, etc. Mais en tout cas, la Tower Bridge à Londres s'éteint. La cathédrale Basile le Bienheureux à Moscou s'éteint aussi. L'Opéra de Sydney, la Fontaine de Trevi à Rome, l'Empire State Building ou encore la Tour Eiffel. Tous ces monuments s'éteignent. Et donc, cet événement prend de l'ampleur. Ce 25 mars, ça va être 7000 villes qui vont participer dans le monde. Donc, moi, je vous invite vraiment à rejoindre le mouvement en mettant en lumière votre action climatique grâce à des bougies ou ce que vous voulez. Parce que ce sont nos actions d'aujourd'hui qui déterminent le monde de demain.
Allez, un tonnerre d'applaudissements pour cette fin.
J'ai une
réaction.
Elle nous a fait un petit dab, je tiens à le préciser parce que c'était beau. C'était beau.
Une petite réaction autour de la table, oui, Julien.
Ça a déjà existé, ça a déjà été fait.
Oui, depuis 2007, c'est en place.
Et du coup, oui, c'est vrai. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça sensibilise? Est-ce que les gens sont vraiment sensibles?
Il y a de plus en plus de pays qui participent à l'événement. Il y a de plus en plus de villes. Au fur et à mesure, tu vois que de 2007 à 2017, du coup, ça prend de l'ampleur.
Parce que toi, tu me parles de ville, mais est-ce que les citoyens en tant que tels, vraiment individu par individu, ouais.
Ouais, parce que moi, j'en ai pas entendu parler. L'année dernière, en fait, j'en ai entendu parler au lendemain, en fait, de l'événement. Donc, du coup, la veille, j'ai pas pu éteindre mes lumières, quoi.
moi, j'en ai déjà entendu parler, donc je pense que ça prend vraiment de l'ampleur.
Merci Mathilde pour ta chronique. Désolée Marvin et Caro, le temps nous manque. Donc après la chronique lumineuse de Mathilde, Zino et Julien, faites-nous la lumière sur le retour Barcelone-PSG.
Alors effectivement Caroline, nous revenons sur la défaite du Paris Saint-Germain. Et au lendemain de cette défaite, nous avons pu voir Le Monde titrer l'improbable crash du PSG face au Barça ou bien l'équipe titrer inqualifiable. Julien.
Bah écoute, je pense qu'on peut commencer par les causes de la défaite. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui autour de la table qui regardent le foot ou qui aiment le foot.
Bien sûr.
Ouais. toi, t'es barcelonaise, toi.
Bah oui. Mais...
Bah en tout cas.
Je suis triste pour vous.
Ouais, ben moi aussi. Franchement.
Moi aussi, je suis triste pour moi-même.
Ouais, ça c'est clair. J'ai besoin d'une thérapie là. Donc moi, je dirais que en premier lieu, enfin il y a plein de choses en fait à redire de cette défaite. Mais parmi les causes de cette défaite, déjà en premier lieu, c'est la peur générale pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, Zino, mais toi en plus, tu fais du foot.
Ouais. Bah après, c'est une peur qui peut se comprendre avant un tel match, mais.
Ouais, mais pas. Quand tu mets 4-0 à l'aller contre une équipe que t'as dominée.
Voilà, ce qui est affolant, c'est ça, c'est une maîtrise à l'aller impressionnante et finalement au retour une équipe inexistante.
En plus, les choix d'Emery, moi, je les ai pas particulièrement compris, puisque, pareil, je sais pas si vous connaissez tous les joueurs, mais en tout cas, il y a par exemple un attaquant gauche, d'accord, du PSG, qui s'appelle Draxler, qui est sorti pour laisser sa place à Aurier, qui est un défenseur. Donc, à un moment où je crois qu'on était mené, que Paris était mené 4-1 ou 5-1, je sais plus.
Oui, c'est ça.
Et à ce moment-là, en fait, quand t'as pris 5 buts, ça sert à rien de rajouter un défenseur, puisque de toute façon, depuis le départ, on jouait à 11. Dans la surface de réparation. Donc j'ai pas compris l'intérêt de ce changement déjà dans un premier lieu. Surtout Draxler était pas si mauvais que ça.
Oui, Draxler n'a pas été mauvais.
C'est loin d'être le mauvais.
Mais aussi le PSG subissait, mais ce n'étaient pas les consignes à la base. Emery avait bien dit d'attaquer, d'essayer de marquer des buts pour prendre l'avantage et plier le match et plier la qualification. Mais les joueurs n'ont pas suivi les directives.
Voilà, on en revient à la peur dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Après, il y a plusieurs joueurs, si on veut faire du cas par cas, il y a plusieurs joueurs moi, qui m'ont choqué, comme Lucas, qui a fait n'importe quoi. Thiago Silva, il était absent aussi dans quasiment tous ses duels,
ouais.
Alors que c'est le capitaine de l'équipe. Trapp, il s'est fait dessus, clairement.
Ouais, Trapp, j'ai pas compris son match. Thiago Silva, un joueur de tel rang, devrait mener l'équipe à la victoire. Au lieu de ça, il était invisible, et avec notamment quelques erreurs, tout comme Marquinhos, donc les deux défenseurs centraux qui sont passés au travers du match. Marquinhos qui fait une erreur sur le deuxième but, je crois, qui laisse passer l'attaquant.
Ouais, ça, je me souviens plus. Mais même dans les choix d'Emery, il y a quand même ta Cavani qui était... que tu connais, Caroline, Cavani?
Yeah, bah oui.
Edinson Cavani.
Ah, bah oui. Moi, j'adore Cavani.
Parce qu'il est beau, c'est ça?
Sûrement.
Il a des cheveux.
J'imagine qu'il est très beau. J'imagine.
C'est un footballeur, quoi.
Il bah voilà, c'est ça. Il a le corps, quoi.
Moi, je l'ai déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu à l'aéroport de Buenos Aires et il est très. Enfin, il est gentil.
De Buenos Aires.
Il a l'air gentil. Ouais. C'est ça que tu veux dire.
Respect, ouais. Contrairement à sa carrure un peu squelettique et costaud, il est gentil.
Désolé, Zino et Julien.
On vous aime.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Cavani, qui est attaquant, en fait. Était en défense constamment, donc c'est bien dans un match comme ça de revenir défendre, de toute façon c'est son jeu aussi à lui, mais le problème c'est que du coup il n'y avait personne pour la relance.
Mais c'est pas son poste, c'est ça ?
C'est pas son poste, ouais. Et en fait il prenait souvent les milieux de terrain, au lieu de prendre les défenseurs, c'est-à-dire qu'un attaquant normalement par rapport à son poste, il devrait plutôt être en avant, ouais. Donc il devrait pas se retrouver au milieu, et moi c'est ça qui m'a surpris. Ouais,
du coup ça a fait qu'il n'y avait aucune pression sur le Barça, qui pouvait dérouler son jeu tranquillement. Caroline, t'avais une question ?
Oui, moi je voulais savoir comment est-ce que tout a pu
basculer
dans les 7 dernières minutes.
Alors moi j'ai, alors c'est vrai,
oui,
pour moi,
parce qu'il y a eu 3 buts en 7 minutes.
En fait là où je suis dégoûté dans ce match,
on appelle une déculottée.
Ouais.
Excusez-moi.
Non, mais sinon, mais t'as raison, c'est une déculottée dans un sens. Mais moi, en fait, ce qui m'a dégoûté dans ce match, c'est pas que le jeu du PSG. Il n'y a pas que ça à retenir, en fait. Il y a l'attitude un peu des joueurs du Barça, mais ça, c'est autre chose. C'est surtout l'arbitrage. Parce qu'en fait, tout a été fait de la part de là. Je dis pas que Paris a perdu. Paris aurait perdu même avec un bon arbitrage. Hein. Mais Paris n'aurait pas été disqualifié avec un bon arbitrage. Après, ça faisait plus de Paris un prétendant au titre, ça, c'est sûr. Mais bon. En tout cas, au niveau de l'arbitrage, moi j'ai remarqué, enfin on a tous remarqué plein de choses, déjà au moins sur un penalty qui est complètement inexistant sur Suarez qui tombe tout seul.
Ouais.
Ensuite, il y a un moment, je me souviens, il y a une faute sur Cavani dans la.
Il est connu Suarez pour faire des.
Ah, Suarez, ouais, c'est son jeu.
Suarez, il est connu pour être. Enfin, il n'y a pas grand monde qui l'aime dans le monde du football. Ouais. Footballistiquement, il est bon, mais. Lui,
ouais, c'est un bon joueur, mais c'est.
Personne ne l'aime.
En tant qu'individu, il n'est pas précis.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Bah parce qu'en fait, quand il est dans la surface de réparation adverse, il se jette.
Ouais.
Et puis il triche beaucoup. Il y a beaucoup de. Ouais, il simule.
Il mord
ses
adversaires.
C'est
pas un
combat de lui. Ah, j'en ai déjà entendu parler alors.
Ouais, voilà, justement. Alors l'arbitre, il a été. Il est dans le viseur de Colina, donc il est responsable de l'arbitrage à l'UEFA. Et donc il sera peut-être. C'est pas encore officiel. En fait, il y a Marca, donc c'est un journal sportif en Espagne. Je crois que c'est de la presse madrilène.
Madrilène, c'est ça.
Ouais. Il a en fait le journal a lancé cette rumeur. Après, on ne sait pas si c'est vrai. C'est pas encore officiel du point de vue de l'UEFA. Mais voilà, en tout cas, avec un bon arbitrage, Paris n'aurait pas été éliminé. En fait, ça dégoûte du foot parce que il y avait rien dans ce match. C'était pas un match en fait. C'est ça le truc.
Mais en fait, moi, ce que je trouve beau beau et triste à la fois dans cette défaite, c'est l'attitude des supporters. Ils sont autant dégoûtés que les joueurs. De la fin de ce match, et en fait cette solidarité entre les supporters et les joueurs de foot, je trouve ça super. En fait, c'est triste là à l'heure actuelle parce que ils ont perdu, ils sont disqualifiés, mais le mouvement, je trouve ça
c'est
super.
Ça, les supporters sont pas forcément contre Paris,
ouais.
Parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte.
Moi personnellement, d'un avis extérieur d'une fille et qui ne regarde pas spécialement le foot, moi je trouve ça plutôt intéressant pour le coup que Paris ait perdu, même si c'est triste ou quoi, parce que ça fait un retournement de situation. On a l'habitude de dire Paris gagne tout le temps, de toute façon les matchs ils vont tous gagner, nanana.
Les champions, non, ils gagnent pas.
Ah, ok.
Mais c'est même pas que tu regardes.
D'accord,
pas le
foot, okay, bah voilà. Mais pour le coup, d'un avis extérieur, moi je trouvais ça intéressant parce qu'on dit tout le temps Paris, de toute façon il y a plein d'argent donc ils gagnent tout le temps pour ça. Et
non,
tout,
mais il y a perdre et il y a Hollywood. Tu vois, il y a le.
Il y a perdre, et puis perdre avec honneur, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est
puis là, il n'y a pas perdu avec honneur.
Voilà, ah, mais il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus.
Et en plus,
rien.
Non, mais en plus, juste. Parce que pour moi, le Barça n'a même pas été bon, en fait. Donc c'est ça qui est encore plus fou.
En fait, c'est ça qui est triste. C'est que
c'est ça qui est triste.
C'est un beau match.
Mais
en
non,
fait.
C'est ça qui est triste.
Belle défaite.
Merci Julien et Zino, merci mes animateurs pour ce débrief footballistique. C'est ainsi que l'émission se termine. Merci à l'UVSQ, Marmite FM, Nouradine et Fred à la technique de nous permettre de nous exprimer chaque semaine. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter en grand nombre sur Marmite FM. Ça nous fait plaisir. Je vous rappelle que Factualité est présent sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas, visitez notre page Facebook Factualité UVSQ et notre compte Twitter Factualité78. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de chroniques et d'animateurs. D'ici là, n'oubliez pas, restez...
cultivés ! Factualité !
L'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
factualité,
c'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi à 15h,
et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM.
88.4.